France Inter.
Bonjour à tous. Les flammes et l'enfer dans l'Aude, désormais 1300 hectares brûlés, une odeur âcre et un bilan humain déjà très lourd. Le Premier ministre François Bayrou attendu cet après-midi. Nous sommes sur place avec notre envoyé spécial. Peut-il y arriver ? Steve Witkoff à Moscou, l'émissaire américain rencontre Vladimir Poutine en ce moment, à quelques heures de la fin de l'ultimatum de Donald Trump pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. L'actualité, c'est encore une circulaire Darmanin pour protéger les enfants victimes de parents violents, une grève de la faim contre un projet d'autoroute en Haute-Savoie. Au Cameroun, le président vise un huitième mandat, 43 ans au pouvoir, il ne lâche pas. L'OGC Nice peut-il franchir la dernière marche pour accéder à la Ligue des Champions, troisième tour préliminaire ce soir contre le Benfica Lisbonne. Et puis la loi du tube, trop de surfeurs à Biarritz à tel point qu'un code a été écrit pour éviter les accidents sur la vague. Le jour ne s'est pas levé dans ces terres de l'Aude où l'épais panache de fumée empêche le soleil de percer. L'incendie mortel du massif des Corbières grignote les terres à une vitesse folle, 5 km par heure, 13 000 hectares déjà consumés, désormais 25 maisons déjà touchées. L'occupante de l'une d'entre elles est d'ailleurs décédée. L'on vous retrouve en direct pour Inter, Erwan Chassin à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Bonjour.
Bonjour.
Paysage de désolation autour de vous, Erwan.
Oui, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a durement subi les incendies. Autour, les reliefs fumants sont entièrement calcinés. Et c'est dans cet endroit qui semble stratégique que les services de secours ont installé leur QG. Et c'est de là que Rémi Recchio, sous-préfet de Narbonne, constate aussi la situation. 13 000 hectares partis en fumée à midi.
C'est une lisière de 80 à 90 km, linéaire. Ça vous donne l'importance du feu. Plus de 15 communes qui sont impactées avec les plans communaux de sauvegarde qui sont vraiment lancés. Des gens qui sont toujours abrités au moment où on se parle. Sur le terrain, vous savez qu'on a quasiment 2000 sapeurs-pompiers, un peu plus de 1800. Avec 600 engins au sol.
Et dans les airs, Canadair, Dash, hélicoptères, tous les engins aériens disponibles dans le sud de la France sont là, ce qui puise énormément d'eau. La majeure partie de l'eau d'ailleurs de Saint-Laurent est en ce moment dédiée à l'extinction du feu. Alors ce matin, on croise des habitants désespérés comme cette agricultrice. Elle vient chercher un peu d'eau auprès des pompiers, 20 litres seulement pour abreuver ses brebis.
Attendez, je mets juste... En fait, mes bêtes ont passé la nuit sur mes terres, là où il y a eu le feu. Et donc du coup, là, je vais leur donner de l'eau, c'est le plus important, là, à l'heure qu'il est.
Et impossible de faire autrement pour l'instant, dit le sous-préfet de Narbonne.
Je ne vous cache pas que si je dois arbitrer entre l'approvisionnement des pompiers et malgré tous les inconvénients que ça puisse générer, c'est ma priorité absolue. Donc nous faisons au mieux dans la configuration où nous sommes.
Et la municipalité, elle assure que tout est fait pour faire revenir l'eau ou pour les habitants, alors que les conditions météo, elles restent aujourd'hui très défavorables.
Et oui, toujours ce vent pour souffler, pousser les flammes. Erwan Chassin à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Merci à vous. Le Premier ministre François Bayrou est attendu sur place cet après-midi, de même que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ainsi que son ministre délégué François-Noël Buffet. Le bilan risque de s'alourdir. Une personne est portée disparue. Il y a 9 blessés, dont un grièvement brûlé. Face à ces feux de plus en plus nombreux, 3 incendies déjà depuis un mois dans l'Aude, les campings sont obligés de s'adapter sur fond de changement climatique, d'incendies et d'inondations. Nicolas Daillot est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Pour lui, il faut changer les textes de loi.
Il va falloir rendre les hébergements, les mobil-homes, les chalets, les roulottes plus résilients. Installer par exemple des chalets sur pilotis dans les zones inondables. Parfois, il va falloir évidemment réfléchir à une moindre exposition au feu des parois des hébergements ou des bâtiments. Il va falloir parfois reconstruire les bâtiments. Il faudra aussi, dans certains cas, déplacer les campings. Parfois relocaliser partiellement, parfois totalement. La loi climat et résilience a déjà prévu un certain nombre de choses, mais elle ne va pas assez loin. Il va falloir vraiment transformer la réglementation française pour que toutes ces mesures d'adaptation qui vont être vitales soient vraiment possibles de mettre en œuvre. Il va falloir justement s'organiser en termes d'aménagement du territoire pour adapter l'existant et ne pas perdre l'outil industriel touristique. Ça demande vraiment une stratégie nationale touristique de grande ampleur. En réalité, c'est un aménagement du territoire du 21e siècle, bien différent de celui du 20e, qui devra permettre à l'économie française de rester un leader mondial du tourisme.
Nicolas Daillot. Taillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie, avec Luc Chemla. L'homme qui voulait arrêter la guerre en Russie, l'émissaire américain Steve Witkoff, est arrivé à Moscou ce matin à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum posé par Donald Trump pour que la Russie arrête son offensive ukrainienne. Il rencontre actuellement Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin est le correspondant d'Inter à Moscou.
Vladimir Poutine a accueilli Steve Witkoff au Kremlin à la mi-journée pour des négociations cruciales. Il s'agit pour la Russie d'éviter que Donald Trump n'impose des droits de douane élevés sur les produits qu'exportent aux États-Unis les partenaires commerciaux de la Russie avant vendredi, date butoir fixée par le président américain pour faire taire les canons en Ukraine. Les premiers pays visés par ces sanctions sont l'Inde et la Chine, qui sont d'importants acheteurs d'hydrocarbures russes depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev. En plus du volet ukrainien, les deux hommes doivent aborder la normalisation des relations bilatérales entre Moscou et Washington, initiée depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais de lourdes incertitudes subsistent. Steve Witkoff a déjà rencontré le président russe à plusieurs reprises, sans jamais parvenir à infléchir ses objectifs dans le conflit ukrainien. Et nombreux sont ceux qui se demandent si la menace de sanctions brandie par Donald Trump parviendra à faire changer de cap le président russe. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
La paix semble une volonté américaine inatteignable. Ce matin, des bombardements russes ont fait 2 morts et 12 blessés dans un camp de vacances ukrainien situé dans la région de Zaporijjia. L'extrême droite au pouvoir en Pologne, l'historien nationaliste Karol Nawrocki, 42 ans, investi président. Il est élu pour un mandat de 5 ans et devra travailler avec le gouvernement pro-européen de Donald Tusk. Une cohabitation qui s'annonce difficile. En France, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annonce la création d'une ordonnance de sûreté pour protéger les enfants victimes d'un parent agresseur. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Service police-justice d'Inter, la protection de l'enfance, le garde des Sceaux veut en faire une priorité absolue l'an prochain. Qu'est-ce que ça va changer dans les faits?
Alors cet outil permettrait de protéger l'enfant d'un parent violent sans attendre que ce parent soit mis en examen et sans priver l'autre parent de la garde. Aujourd'hui, explique-t-on au cabinet du ministre de la Justice, en cas de suspicion de violence, l'enfant est placé donc retiré aux deux parents. Le cabinet précise qu'il y aura des garde-fous face aux fausses dénonciations. Ce projet d'ordonnance de sûreté était une demande répétée de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, un peu sur le modèle de l'ordonnance de protection qui existe pour les victimes de violences conjugales. La justice peut ordonner en urgence au conjoint accusé de ne plus s'approcher de la victime et suspendre son droit de visite des enfants. Gérald Darmanin a par ailleurs chargé le nouveau directeur de la protection judiciaire de la jeunesse d'une mission de 3 mois sur la protection de l'enfance après les scandales récents comme ces jeunes filles placées, livrées à la prostitution. Les professionnels, eux, rappellent régulièrement qu'ils ont besoin de moyens avant tout. Les juges des enfants ont par exemple du mal à faire appliquer leurs mesures faute de trouver des éducateurs ou des placements disponibles.
Sarah Guibaudot, chef du service police-justice de France Inter. Un suspect interpellé est placé en garde à vue dans l'affaire des chevaux mutilés en Seine-Maritime depuis le mois de mai. 11 chevaux et poneys ont été visés, 3 en sont morts. Des attaques survenues dans des haras, des centres équestres ou des pensions. Lui ne connaissait pas sa victime. Le suspect de 27 ans en garde à vue à Amiens admet être l'auteur de ce meurtre sordide. Un homme retrouvé égorgé, éventré, il y a 2 jours sur un terrain de sport. Le parquet ne donne pas pour l'instant plus de détails sur les motivations de son geste. Et puis un homme en garde à vue pour avoir profané la tombe du soldat inconnu sur une vidéo virale sur les réseaux sociaux. On le voit enjamber les barrières entourant la sépulture sous l'arc de triomphe, marcher sur la tombe et allumer sa cigarette avec la flamme du souvenir. La dalle contre l'asphalte, une grève de la faim pour protester contre un projet autoroutier. Après l'A69 près de Toulouse, dont on a beaucoup parlé, c'est le projet de l'A412 en Haute-Savoie qui suscite la colère. 16 km prévus entre le village de Machilly et la frontière suisse. Là, ne passe pas pour cet opposant qui décide de ne plus manger. Paul Florquin l'a contacté.
70 ans, ancien restaurateur, le militant préfère rester anonyme. Il se fait appeler Forêt Libre.
En 2 mots, c'est forêt libre. Et puis en 3 mots, c'est fort et libre.
Il vit au milieu d'une clairière depuis une semaine sur le tracé de la future autoroute.
Il y a un ruisseau avec des barrages de castors.
Presque sans équipement.
Avec une bâche pour me protéger de la pluie. Pour l'instant, je n'ai que du beau temps, donc c'est bien. Mais je passe 24 heures sur 24 en extérieur.
Et sans manger non plus, son jeûne, c'est son action symbolique pour sensibiliser contre le projet.
Je fais donc un jeûne de 412 heures, parce que la future voie s'appelle A412. Le but est de protéger la forêt. Et le but est de parler au nom de la forêt.
Son action va durer jusqu'au 15 août. Il regrette le manque d'informations sur les conséquences écologiques de l'A412.
On ne nous présente pas la destruction de l'existant. C'est par exemple, on ne nous dit pas combien d'arbres vont être coupés. Ils s'en moquent complètement et personne ne le sait. On tue du vivant. Donc à partir du moment où on tue du vivant, on me tue partiellement.
Au total, l'autoroute va s'étendre sur 180 hectares de forêt. Objectif, soulager les routes départementales, souvent surchargées de Haute-Savoie. Le début du chantier est prévu pour septembre 2026.
Paul Floroquin, décidément quand ça veut pas, le trafic des trains à nouveau perturbé ce matin dans les Hauts-de-France en cause d'un vol de câble près de Lille. Aucun train régional n'a circulé ce matin entre Lille et Lens. Le trafic a repris à midi. Les États-Unis vont cesser de financer le développement de plusieurs vaccins à ARN messager. Annonce aujourd'hui du ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccino-sceptique Robert Kennedy Jr. 22 projets d'investissement étaient en cours pour un montant d'environ 500 millions de dollars. Les vaccins à ARN messager sont source de nombreux espoirs depuis le Covid, notamment dans la lutte contre les virus, mais aussi contre le cancer. Et voici à présent un scénario déjà presque écrit avant même l'élection présidentielle à l'automne. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel rejette la candidature de Maurice Kamto, principal opposant au président sortant Paul Biya, après plus de 40 ans de pouvoir, 7 mandats. Bonjour Rosalia MacArthur.
Bonjour.
Il compte se représenter et la décision du Conseil constitutionnel soulève les critiques de l'opposition.
Lors de la précédente présidentielle camerounaise, en 2018, Maurice Kamto avait terminé deuxième. Alors forcément, le voir aujourd'hui rayé de la liste des candidats, Philippe Nanga, le coordinateur de l'ONG camerounaise Un Monde à venir, le vit comme un coup dur.
Moi, je suis écœuré parce qu'on a vu un leader qui a tout fait pour lever les obstacles. On allait le sortir de là avec des arguments fallacieux. Nous venons de vivre là une sorte de mise à la guillotine de la démocratie dans notre pays.
Les autorités ont estimé que Maurice Kamto ne pouvait se présenter en raison d'une pluralité d'investitures dans son parti. Face à cet argument, son camp a dénoncé une décision politique. Reste donc dans la course aux élections 12 candidats pour affronter l'actuel président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Selon Philippe Nanga, le seul espoir pour que l'opposition l'emporte, c'est qu'elle fasse une coalition.
Je pense que c'est la possibilité la plus sûre si on veut éviter, que moi j'estime être une situation plus ou moins catastrophique, parce que nous savons tous qu'on a quand même un président qui, du point de vue de son âge, est affaibli. Donc nous pensons qu'il y a des gens autour de lui qui voudraient profiter de sa situation pour continuer de gouverner, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre pays.
Après l'exclusion de la candidature de Maurice Kamto, l'ONG Human Rights Watch a exprimé ses inquiétudes sur la crédibilité du scrutin camerounais.
Rosalia MacArthur, au Burundi, le nouveau gouvernement a prêté serment ce matin après les législatives contestées de juin. Le parti au pouvoir depuis 20 ans a remporté tout simplement la totalité des sièges de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'opposition. Les Aiglons vont-ils pouvoir voler haut cette saison? L'OGC Nice, 4e de Ligue 1 de foot l'an passé, affronte ce soir les Portugais du Benfica Lisbonne pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions de foot. On peut le dire, François Ventejou, un parcours du combattant attend les footballeurs azuréens.
Les Niçois n'ont pas de chance, ils ont hérité du pire adversaire possible pour ce troisième tour préliminaire. Le Benfica Lisbonne est un habitué de la Ligue des Champions, il la joue chaque année ou presque. Pour les supporters des Aiglons, on sait que ça va être très compliqué.
Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Après, on peut faire un exploit. Hein. 1-0. 1-0, pourquoi pas, tu vois. Il y a un match retour, il faut tout bloquer. On se met à 12 derrière.
Un scénario rêvé, mais qui ne donnerait pas tout de suite accès à la Ligue des Champions, mais simplement au barrage. Et là encore, un adversaire coriace attendra Nice, soit les Néerlandais du Feyenoord, soit les Turcs du Fenerbahçe, emmenés par José Mourinho. Nice va donc devoir réaliser deux exploits pour retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 65 ans. Car en plus de la qualité des adversaires, l'entraîneur francaise doit faire sans plusieurs joueurs cadres blessés, comme Tanguy Ndombele et Evan Guessant. La bonne nouvelle tout de même, c'est que même en cas de défaite face au Benfica ou en barrage, les Aiglons joueront bien une Coupe d'Europe cette saison car ils seront reversés en Ligue Europa.
OGC Nice, Benfica, Lisbonne, coup d'envoi 21h à Nice, à l'Allianz Riviera. Et puis il n'y a pas que le code de la route face à la fréquentation grandissante sur les plages de Biarritz. Un code des surfeurs mis sur pied. 7 règles de base inscrites sur 3 planches de surf en bois installées en centre-ville le long de la grande plage. Reportage ici Gironde, Thomas Giraudeau.
La règle la plus importante, c'est la priorité. Seul le surfeur le plus proche de là où la vague se brise peut la prendre, les autres doivent attendre, mais certains n'ont pas la patience. Jules, 15 ans, en a fait l'expérience.
C'est une entorse cervicale en voulant passer derrière une vague et quelqu'un, il n'avait pas compris la priorité et je me suis pris son genou dans la tête et je suis tombé KO dans l'eau. Et du coup, hôpital, immobilisation sur la plage, fermeture de la plage, le temps que les pompiers viennent me chercher.
Des incidents qui se multiplient avec l'augmentation du nombre de surfeurs, sauf que les spots, les zones, elles, ne sont pas extensibles, constate un des maîtres nageurs sur la grande plage, sa corne de brume dans les mains.
Ils tombent, ils envoient la planche devant, et bien la planche en fait 7 mètres plus loin des fois peut percuter un autre surfeur. Des surfeurs qui connaissent pas forcément les règles, les drapeaux, qui rentrent dans la zone de bain et qui pourraient blesser des baigneurs en les percutant avec la planche ou en les coupant avec l'aileron.
D'où l'importance de rappeler les règles de base sur ces planches en bois installées le long de la plage. Mais qui va vraiment les voir, s'interroge Renaud Fabier, 50 ans de surf sur la grande plage.
Et bien là, ben vous le voyez vous-même, là il y en a deux ou trois qui vont ramer. Bon, par exemple, il part, il vole la vague. Ouais, c'est pour ça que c'est aléatoire, ces panneaux. Est-ce que les gens vont les lire? On va dire que c'est une première étape, c'est bien.
Lui milite pour que les loueurs de planches distribuent aussi ce code de bonne conduite. C'est la prochaine étape, assure la mairie de Biarritz, à partir du printemps prochain.
Voilà, et ça marche tellement bien que la mairie de Biarritz promet l'installation de nouvelles planches de surf pédagogique en bois sur toutes les autres plages de la ville. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, le feu dans l'Aude, désormais 1300 hectares brûlés et un bilan humain déjà très lourd. Un mort, 9 blessés dont un grave, une personne disparue. Le Premier ministre François Bayrou est attendu sur place cet après-midi. On y reviendra évidemment sur France Inter dès 14h.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Après-midi bien ensoleillé.
Oui, le soleil va dominer sur l'ensemble du pays. C'est d'ailleurs un peu la tendance des prochains jours. Alors pour cet après-midi, le ciel sera quand même bien voilé. De nuages élevés, il sera même parfois laiteux. Cet épais voile nuageux gagne d'ailleurs les régions de l'Est et va s'étendre cet après-midi entre les Ardennes, l'Alsace et l'arrière-pays du Languedoc et de la Provence. Plus à l'ouest et autour de la Méditerranée, les nuages seront plus fins et le ciel sera plus bleu, hormis évidemment sous les fumées de l'incendie. Quelques petites averses pourront tout de même fleurir sur l'est des Pyrénées, et puis l'instabilité sera un peu plus marquée sur les frontières du Mercantour et l'orage peut gronder sous les averses. Cet après-midi, la chaleur est encore modérée, même si le seuil des fortes chaleurs sera dépassé sur les régions du sud. On attend 24 degrés à Rouen et à Metz, 25 degrés à Paris et Strasbourg, 26 degrés à Lille, 28 degrés à Nantes et à Biarritz, 29 pour Lyon, 31 degrés du côté de Marseille ou encore 33 degrés à Toulouse et Angoulême. Les températures minimales de la nuit seront encore parfois un peu fraîches. En revanche, à partir de demain après-midi, les températures vont s'accentuer et ça ne fait plus aucun doute, on se dirige vers un nouvel épisode de forte chaleur généralisée jusqu'à la semaine prochaine.
Et on suivra ça évidemment avec vous. Merci à vous Sébastien Léas, Météo France.